change de patriarche. Il parle donc désormais de Yitzhak Avinu. On ne va pas en dire beaucoup de choses. On n'en dit pas beaucoup de choses en général d'Yitzhak. Très souvent dans les textes, on a un peu l'impression qu'on entend beaucoup plus parler d'Avraham et de Yaakov que d'Yitzhak. Mais on en avait déjà parlé au moment de Rosh Hashanah. D'un autre côté, Yitzhak, il est reconnu par les Bnei Israël comme étant le patriarche, celui qui vraiment s'occupe d'eux, s'occupe des Bnei Israël, discute avec Hachem pour sauver le clan Israël. Alors, on a déjà parlé de la rencontre entre Rivka et Yitzhak. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une rencontre qui, on peut dire, qui effraie Rivka. Rivka est effrayée et cette caractéristique, enfin cette situation-là, va être caractéristique du couple Yitzhak-Rivka. C'est un couple qui fonctionne bien, mais il n'y a pratiquement pas de communication. Pas de communication parce que Rivka est effrayée par Yitzhak, que Rivka est une prophétesse, Yitzhak aussi, mais on a toujours le problème qui vient de ce que un avi, un prophète, Hachem lui parle, et il y a deux situations. Une situation où Hachem lui parle et il lui ordonne de dire à quelqu'un ou au clan Israël ce qu'Hachem lui a dit. C'est une voix qui doit être transmise. Et puis, il y a des nevouot que le navi reçoit, mais on ne lui a pas dit que ça devait se transmettre, et du coup, il n'a pas le droit de transmettre. On aura des situations un peu paradoxales dans lesquelles, par exemple, vous avez au moment où Yaakov va s'attrister, va être complètement défait à l'idée que Yosef a disparu, mais il n'arrive pas non plus à faire le deuil, etc. Mais son père, Yitzhak, est à côté de lui, et Yitzhak sait par nevoie que Yosef est vivant. Et il ne lui dit rien parce qu'il n'a pas le droit de le lui dire. Et de même, on va avoir que la situation où Rivka va savoir des choses, elle sait des choses, et elle n'a pas le droit de les dire à Yitzhak. Elle ne peut pas lui dire que c'est une voix, elle ne peut pas non plus discuter comme... Voilà, peut-être essayer de le convaincre. Pas du tout, ça c'est déjà une autre affaire. Yitzhak n'est pas quelqu'un avec lequel on peut parler... Entre autres parce qu'il a vécu quelque chose d'absolument terrible quand il était sur le Mizbeach et qu'il a expérimenté son père qui était en train de le tuer, enfin de l'approcher comme corban, avec son accord, mais n'empêche. Certains disent qu'il a à ce moment-là d'ailleurs changé de neshama. Enfin, si je vous avais déjà dit que certains expliquent que c'était absolument fondamental, cette situation-là, qui a entraîné un changement de neshama, parce que la neshama de Yitzhak était une neshama féminine. Avec Yitzhak, avec une neshama féminine, il n'aurait jamais pu avoir d'enfant. Et avec ce changement de neshama, la deuxième neshama est une neshama masculine. Et Yitzhak va avoir un enfant, et en fait, il va en avoir deux, mais les jumeaux, c'est vrai que c'est les faux jumeaux, mais bon, comme on voit, ni lui ni Rivka ne sont extrêmement fertiles, si vous voulez. Rivka va être d'abord, pendant assez longtemps, elle va être akara, c'est-à-dire stérile. Voilà, donc ça c'est pour dire en très un peu grossier la situation, qui est la situation de ce couple-là qui va jouer un rôle fondamental, mais qui ne communique pas visiblement. Alors maintenant, on va regarder le texte, le début, commencer. Le texte commence tout de suite, bien qu'on n'ait presque rien dit sur Yitzhak, on nous parle tout de suite, et Toldot Yitzhak, Ben Avraham. Bon. Alors, je vous avertis tout de suite que dans ce texte, ce qui va frapper, c'est que chaque fois qu'on va parler de quelqu'un, pratiquement tout le temps, on va toujours dire comment il est dans la fratrie. Comment elle est dans la famille, plutôt. On ne va jamais citer Esav ou Yaakov sans dire qu'ils sont les enfants de Yitzhak ou de Rivka. On va citer Rivka en disant qu'elle est la mère de Yitzhak, de Yaakov et d'Esav. On va à chaque fois citer Esav par rapport à Yaakov en disant que c'est son frère, et vice-versa. Bien qu'au bout d'un certain temps, on le sait. On finit par savoir qu'ils sont frères. On sait qui sont leurs parents. N'empêche que le texte, sans qu'on explique vraiment dans ce texte pourquoi il faut mentionner sans arrêt cette relation familiale, alors on peut dire que c'est bon, ça a à voir avec le fait que c'est les toldot, sont les engendrements, et donc on dit toujours comment s'est passé cet engendrement. Alors, on va peut-être commencer par aller tout de suite à la fin de la paracha, puisqu'on parle de ça, parce que tout à la fin, on dit autre chose. Alors, vous vous déplacez, vous allez dans les derniers versets. L'avant-dernier verset de la paracha, l'avant-avant-dernier, non, c'est l'avant-dernier, effectivement, nous dit que Vayar Esav a vu que Raot benot Kenaan beinei Yitzhak aviv. Il a vu qu'aux yeux de son père, vous voyez, on cite Yitzhak aviv, on finit par savoir que Yitzhak c'est son père. Pourquoi est-ce que nécessaire de dire Bene Yitzhak Aviv, le pasouk nous aurait amplement dit ce qu'il avait à dire, a priori, si on avait simplement dit Bene Yitzhak. Yitzhak Aviv. Donc, Esav voit que les femmes qu'il avait, qui étaient des Cananéennes, ça ne plaisait pas du tout à son père. Alors, va yelech Esav. Alors Esav est allé chez Ishmael. Vaikar et Mahalat, et il a pris, ça veut dire il a épousé Mahalat bat Ishmael, une fille d'Ishmael qui s'appelle Mahalat. D'Ishmael, on nous dit encore une fois qu'il est ben Abraham. Achot Nevayot, la sœur de Nevayot. Nevayot, c'est le fils aîné d'Ishmael. Al-Nashav, en plus des femmes qu'il avait, il avait déjà deux femmes en tout cas, Lo-Leisha, il l'a épousée sans divorcer des Cananéennes. Alors ici, tout à coup, on demande pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'elle est la sœur de Nevaïot. Si on dit qu'elle est une fille d'Ishmaël, comme on sait, il y a l'arbre généalogique d'Ishmaël, on l'a lu à la fin de Parshat Chaye Sara, et on sait que Nevaïot est un fils d'Ishmaël, donc on n'a pas besoin de nous dire qu'elle est la sœur de Nevaïot, on le sait. En quoi est-ce que c'est important? Alors ici, tout à coup, ça a une importance. Chaque fois qu'on nous dit « il est le frère », etc., la Torah, la Chazal ne s'arrête pas là-dessus. Mais ici, on nous dit « voilà, elle est la sœur de Nevaïot ». Et Rashi dit « Mimashma shenemar bat Ishmael » quand on nous a dit que cette machalat est la fille d'Ishmael, « Eni yodea shei achot Nevaïot » est-ce que je ne sais pas quelle est la sœur de Nevaïot? Évidemment, je le sais. Et la Madnou, ça vient de telle sorte que nous puissions en déduire Shemet Ishmael. Là, on déduit qu'Ishmael est mort. Mishi Adal et Sav Kodem Nisuea. C'est-à-dire, lorsque Ishmael était là lorsqu'on a discuté le Shidour, et il a été d'accord qu'elle devienne la femme d'Esav, mais avant le mariage, Ishmaël est mort. Et du coup, c'est son frère qui la marie, enfin qui joue le rôle du père, puisqu'il est le fils aîné. Nevaïot est le fils aîné, donc c'est lui. Ici, Nevaïot Achia. Bon, donc on vient enseigner ici la mort d'Ishmaël, et du coup Rashi, on ne va pas le faire, mais Rashi, à partir de là, on va faire toute la chronologie, on va en déduire tous les âges de chacun, les âges d'Itsrak, etc. C'est de là qu'on va déduire que Yaakov est allé pendant 14 ans à la yeshiva de Shem Ever, quand il va quitter ses parents, etc. Tout ça, on le déduit du fait que on sait que Ishmaël est mort. On connaît l'âge auquel Ishmaël est mort, donc on peut reconstituer toute la chronologie. Mais en tout cas, on a expliqué qu'il y avait une raison au fait de dire que cette Machalat était la sœur de Nevaïot. Il y a encore d'autres choses qu'on verra peut-être par la suite, mais je voulais juste faire remarquer cela. Alors que dans toutes les occurrences où on dit celui-là est le frère de l'autre, etc., et le fils de celui-là ou de celle-là, et celle-là, elle est la mère, et l'autre, il est le père, etc., on ne sait pas pourquoi, le texte est extrêmement redondant sur ce plan-là. Alors, je reprends les premiers mots. Vele toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Alors, une fois qu'on nous a dit qu'Yitzhak était le fils d'Abraham, on sait bien que c'est Abraham qui est le père de Yitzhak. Mais le mot holid, le verbe holid, c'est un verbe qui est utilisé plutôt par rapport aux femmes, par rapport à la mère. C'est la mère qui est molida. Pourquoi tout à coup on nous dit qu'Abraham est holid? Alors il y a une aliedé chez Katav Akatou Yitzhak ben Avraham d'Irashi. Ouskak Lomar, Avraham Olid et Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'il est encore nécessaire de dire que c'est Avraham qui l'a mis au monde? Alors vous connaissez, c'est parce que les lettres Sanéador disaient que, en vérité, Avraham, il le fait passer pour son fils, mais en réalité, Sarah, elle a eu Yitzhak avec Abimelech. Et donc, Hachem a fait en sorte que le visage d'Yitzhak soit une copie conforme de celui d'Abraham pour qu'on ne puisse pas continuer de raconter ces ragots concernant Sarah et concernant Yitzhak. Et bon, ceci étant réglé, Vahi Yitzhak ben Arbaim Shana, Karto et Rivka. Yitzhak a 40 ans lorsqu'il prend Rivka. Prendre Rivka, ça veut dire lorsqu'il épouse Rivka. Alors, vous vous souvenez, Yitzhak à la Akeda, il a 37 ans. Et à ce moment-là, on apprend la naissance de Rivka. Par conséquent, quand il donne des kiddushin à Rivka, elle a 3 ans. Donc, elle a 3 ans, et lui, il en a 40. Ça aussi, ça va être probablement une, ça pourrait être une raison pour laquelle la discussion n'est pas évidente. Entre Abraham et Sarah, il y a 10 ans de différence. Ici, lui, il a 40 et elle a 3 ans. Donc, c'est quasiment 40 ans de différence. C'est beaucoup. En tout cas, évidemment, il a donné les kiddushin et on a vu qu'il ne l'a pas tout de suite épousé au sens complet du terme. Il l'a épousé plus tard. Et on voit très bien, ensuite on nous dit, on va avoir un peu plus d'informations. Alors là aussi, on nous redit, qu'est-ce qu'il a pris Rivka, la fille de Betuel. Alors en vérité, ce n'est pas la fille de Betuel. Oui, est-ce que c'est la fille de Betuel? Oui, c'est la fille de Betuel et la sœur de Laban. Bat Betuel Arami Mipadan Aram. Et on nous précise, elle est aussi la sœur de Laban. Mais là, de nouveau, c'est redondant. Il l'a épousée. Et ensuite, immédiatement, on entre dans le vif du sujet. Vayetar Yitzhak Lachem Enochach Ishto. Vayetar, c'est un mot qu'on utilise pour parler de prière. C'est-à-dire, en fait, ça veut plutôt dire que Yitzhak, il a vraiment remué le monde dans sa prière pour au sujet de sa femme, qui akarahi, parce que elle est, au moment où il prie, elle est stérile. Akara. Vaya terlo. Et en fait, on nous dit que lui, il a prié, mais elle aussi, elle a prié. Mais Vaya terlo, Hachem. Et Hachem a répondu à sa prière, à lui, à la prière d'Yitzhak, et pas à celle de Rivka. C'est-à-dire, c'était pas contraire à celle de Rivka, mais la réponse, elle est, nous dit le verset, à la prière de Yitzhak. Vous avez deux personnes qui prient pour la même chose, et la Torah, elle juge nécessaire de nous dire, en vérité, hein, c'est bien par la prière d'Yitzhak et pas par celle de Rivka. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Hachem lui a répondu, Vata Rivka Ishto, et Rivka est devenue enceinte. Alors, le problème du fait que Hachem a répondu à la prière de Yitzhak plutôt qu'à celle de Rivka, c'est un peu presque contre-intuitif en tout cas. Parce que l'explication que Rashi va donner, que tout le monde va donner, c'est de dire que Hachem a écouté la prière de Yitzhak, parce que Yitzhak c'est un tzaddik ben tzaddik, tzaddik fils de tzaddik, plutôt que la prière de Rivka, qui elle est une tzaddeket bat racha. Nous on aurait plutôt tendance à dire qu'il y a plus de mérite à être une sadéquette quand on a dû s'arracher aux mauvaises influences de la maison paternelle, alors que Yitzhak n'a eu qu'à continuer sur la lancée de ce que son père avait déjà fait. Alors, peut-être ce n'est pas une question de mérite, peut-être c'est une question d'efficacité. Le problème de l'efficacité, il vient ici de ce que la prière, c'est une opération difficile. Donc, il faut faire monter la prière jusqu'à Hachem. Donc, il faut, d'une certaine façon, il faut inventer un chemin qui va permettre à ces paroles, aux paroles de la prière, de monter jusqu'à ce qu'elles soient entendues là où elles doivent être entendues. Alors, c'est sûr que d'être le fils de quelqu'un qui est tzaddik, c'est-à-dire qui a déjà, en quelque sorte, tracé le chemin pour la prière. Abraham a déjà tracé un chemin de prière, donc il sera d'une certaine façon, il peut déjà emprunter ce chemin. Et donc, du point de vue de l'efficacité, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'efficacité peut-être. Du point de vue de l'efficacité, la prière d'un tzaddik ben tzaddik est plus efficace que la prière d'une tzaddiket bat racha. Ça ne dit rien du tout de mérite. Il y a peut-être d'autres explications, mais disons en tout cas celle-là, elle s'entend, je pense, assez bien. Et puis tout de suite, on nous dit « Vaitrotsu habanim bekirba ». C'est-à-dire, elle est enceinte et les garçons ici se disputent. En son sein. Donc, vous entendez ici que Rivka, il y a déjà un scoop. Rivka, elle a des jumeaux. D'accord? Un banim. Elle a deux jumeaux qui sont deux garçons qui se disputent déjà. Alors, elle n'en sait rien. Elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Elle, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est que ça bouge beaucoup, quoi. Vatomer imken lamaze anochi. Alors là, elle dit une drôle de chose. Elle dit, mais si c'est comme ça, pourquoi moi? Pourquoi c'est comme ça pour moi? Elle pose une question, et cette question, elle va la poser à Hachem. Vatelech lidrosh et Hachem. Donc, elle questionne Hachem sur ce qui lui arrive. Alors, comment est-ce qu'on questionne Hachem? Elle est allée à la yeshiva de Shem Ever. Shem Ever, Shem, c'est le fils de Noach, évidemment. Et elle est allée le consulter. Il était probablement prophète. Et les prophètes disaient aux gens ce qui les concernait, même personnellement, ce que ne peuvent pas faire les chachamim. Ils peuvent donner des conseils, dire aider, mais eux, ils disent vraiment ta place. C'était le prophète, il disait voilà ta tâche, voilà ce que tu vas faire, tu dois faire, etc. Elle va chez Shem, Shemever, la yeshiva, là-bas, et elle pose la question, « Lamaze anochi ?» Bon, finalement, c'est un peu étrange. Une femme est enceinte, ça bouge un peu beaucoup. Pourquoi elle va questionner les rabbins, quoi? Elle va questionner Hachem. Alors, elle est certainement, on va voir qu'elle est assez jeune, parce que on va le voir tout de suite, ils sont restés entre le mariage formel, disons, et la naissance des enfants. On nous dit que Yitzhak a passé de 40 à 60 ans. Donc, ça a duré 20 ans. Donc, on peut penser, par exemple, que 10 ans étaient nécessaires pour que Rivka puisse porter un enfant. Elle aurait eu un enfant à 13 ans, disons, en gros, quoi. Et puis ensuite, pendant 10 ans, elle était stérile. Bon, c'est une jeune femme qui... elle a 23 ans. c'est la première grossesse. Bon, ben, quand ce qui se passe, ben, va demander aux autres femmes ce qu'il en est. Rashi dit, sur le pasouk Kavbet, va être au-dessous à Vanim, Rashi dit, Al-Kochach Hamikra Azé Omer Darsheni. Ce verset, il nous demande, il demande à être sollicité, à être expliqué. De Stam Maï Retsitsazu. C'est quoi cette Retsitsa? C'est quoi cette expression Retsitsa? Et puis pourquoi elle dit Imken Lamazé Anochi? Pourquoi elle dit, pourquoi est-ce que ça m'arrive comme si. Rabotez-nous dans Chou, la chaune Ritsa. Nos maîtres ont interprété Vaitrotsutsu comme s'il s'agissait d'une course. Ritsa. Ritsa est court, ça veut dire. Ils ont dit que chez Aïta Overet, Alpitrei Torah, chez le Shem, quand elle passait devant la yeshiva de Shem, alors ça bougeait. Il y avait. Alors, on va expliquer. Il y a un des. En fait, ce qui se passe, c'est que Yaakov rats ou me fachesse la tset. Yaakov, il court et il veut sortir, en quelque sorte. Quand elle passe devant un temple idolâtre, c'est Esav qui veut sortir. Ça, c'est une lecture. Une interprétation de Vaïtrotsetsu pour dire que c'était une ritsa, il courait. Deuxième autre lecture d'avoir à faire, chez Mitrotsetsim Ze Imze, Merivim, ils se battent. Ils se disputent, Benachlat Shneolamot. Ils se disputent pour l'héritage des deux mondes, Olamazé et Olamaba. Du coup, elle dit, Batomer Imkel, Gadol Tsaraibu. Bon, si d'être enceinte, ça fait si mal, j'ai l'impression qu'elle dit Lamazé Anochi. Lamazé Anochi, Mitava, pourquoi je désirais tellement être enceinte? Pourquoi j'ai prié pour être enceinte? On a l'impression de. Elle dit, bon, je me suis. Elle, comme si. Voilà, ben. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait souffrir. La Teler Lidrosh, le Bet Midrasho Shel Shem. Lidrosh est Hashem, Shiagid la Matee Besofa. Hashem lui. Enfin, elle va demander, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pourquoi est-ce que. Elle se pose cette question, quoi. Est-ce que toutes les femmes enceintes se posent cette question-là? Pourquoi elle n'a pas demandé à toutes les femmes autour d'elle? Alors, certains disent que, bon, c'était un peu spécial quand même. Il y avait quand même, en tout cas, la première lecture qui dit que c'était à des moments bien précis qu'elle a remarqué quand on passe devant la yeshiva ou devant un temple idolâtre. Coup là-bas, c'est à ce moment-là que ça bouge. Elle pense qu'elle a un enfant. Et donc, le Beit HaLevi, il explique les choses de la manière suivante. Elle pense qu'elle a un enfant. Donc, cet enfant, il est attiré de la même manière par la yeshiva, par la Torah et par l'idolâtrie. Donc elle pense qu'elle a un enfant qui sera à 50-50 entre le bien et le mal. 50-50. Alors le Beit HaLevi dit, elle dit, mais moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Moi, je pensais avoir un enfant qui va servir Hachem. Mais si mon enfant, il va aussi être attiré par l'idolâtrie, non, ben, je préfère pas avoir d'enfant. Et elle dit, quand elle, le Beit HaLevi l'explique, elle dit, Lamazé Anochi. Pourquoi moi je devrais faire ça? C'est-à-dire, Yitzhak, il a une mitzvah. Le Péri Averivia, une mitzvah d'avoir des enfants. Moi, j'ai pas de mitzvah d'avoir des enfants. Donc, je suis pas d'accord. Je ne veux pas mettre au monde un enfant qui soit à 50-50. Je suis pas d'accord. Alors, réponse de Shem, réponse d'Hachem, donc, il lui dit, voilà, c'est pas comme tu penses. Toi, tu penses que tu as un enfant qui va courir à gauche, à droite? Non, c'est pas comme ça. Voyons, mais Hachem, là, il lui dit à elle. Vous voyez, le mot là, il est aussi en trop. C'est bien à elle que, c'est elle qui a posé la question, c'est à elle qu'on répond, non? Là aussi, on entend que Hachem lui parle à elle. C'est une nevoie. Quand Hachem parle à quelqu'un, c'est la personne est un avis. C'est une nevoie qu'elle reçoit. Et la nevoie, elle est là, à elle. Et lui dit, Shnei goyim bevitner, shnei leumim me'ayich paredu. Il y a deux peuples dans ton ventre. Et il y a deux nations qui se sépareront, deux nations qui sont dans tes entrailles et qui vont se séparer, où le homme mit le homme yematz, et donc ils vont ces deux peuples, nations, etc. Il y aura une nation qui sera plus forte que l'autre. Et Verav Yavod Tsaïr. Et le plus âgé, le plus grand, servira le plus jeune. Donc c'est ça un bouleversement. Elle apprend qu'elle a deux jumeaux. Et bon, alors maintenant, voilà. Est-ce que c'est plus acceptable? S'ils sont deux, est-ce que c'est mieux? Pourquoi elle, visiblement, on ne dit pas qu'elle a continué de dire la Mazé Anochi. Donc, ça veut dire que s'il y en a un qui est bien, elle comprend que probablement, il ne peut pas y avoir seulement du bien, elle va produire aussi du mal. Et ça, visiblement, elle l'accepte. Le fait que Rivka ait mis au monde à la fois du bien et du mal, certains disent que quand Yitzhak a envoyé Yaakov chez Lavan, il lui a dit, c'est le frère de Rivka. Faut que tu fasses attention. Parce qu'il y a aussi du bien et du mal chez lui. Alors, je t'envoie chez Lavan pour que tu ne prennes de lui que le bien. Donc, quelque part, c'est intéressant. Parce que si on lit comme ça, quelque part, il y avait, voilà, puisqu'il a épousé Rivka, qui est la fille de Betuel, la sœur de Lavan, même si elle est une super tzadekette et tout ce que vous voulez, mais il y aurait quand même une espèce d'inertie ou de atavisme, je ne sais pas, qui fait que dans cette famille, il faut faire attention. On produit du bien et du mal. Rivka, on peut presque dire, en réalité, nous, on pourrait penser que dans cette famille, on a partagé. Rivka, elle a pris le bien et Lavan le mal. Mais Yitzhak dit à Yaakov, il lui dit, Lavan, il y a du bien et du mal chez lui. Ne prend que le bien. Donc ça, c'est une mise en garde de Lavan à Yaakov, basé sur le fait de ce qu'on vient de voir ici, c'est que finalement, Rivka leur a donc produit le bien et le mal. Sarah, elle a produit que le bien. Abraham, il a produit du bien et du moins bien, en tout cas. À un moment donné, Ishmaël était très mauvais, mais il a fait tchouba. Mais des saves, on ne nous dira pas qu'il a fait tchouba. Vaimleu, yame à la dedet. Voilà. Quand le moment d'accoucher est arrivé, Vehine, et voici Tomim Bevitna. Il y a des jumeaux dans son ventre. Ici, ça apparaît comme une nouveauté. Iné, c'est un truc impensable. On n'avait pas pensé à ça. Alors, pour elle, a priori, c'est pas une nouveauté. Parce que Shem lui a déjà dit qu'elle avait deux enfants. Et peut-être que personne d'autre ne le savait. La Torah, elle nous dit, c'est les banim qui se battent. La Torah, elle nous dit les choses parce que c'est comme ça que ça s'avérera que c'est de ça qu'il s'agit. Mais personne n'a pensé à lui dire qu'il y avait des jumeaux. Puisque là, c'est un hiné. Hiné, ça veut toujours dire quelque chose d'inattendu. Vayetse Arishon Admoni Kulo Kaderetsea Vayekru Shemo Esav. Le premier qui est sorti, il était tout rouge, sanguin littéralement. Il était comme une pelisse pleine de poils. Donc, c'était un enfant complètement assous, ça veut dire comme s'il avait été complètement fait. Enfin, presque comme s'il était beaucoup plus âgé que l'enfant qui vient de naître. Vaïkru Shemo Esav. On l'a appelé. Vaïkru. C'est un pluriel. C'est-à-dire comme s'il y avait un consensus. C'est pas ni son père ni sa mère qui l'ont appelé comme ça. Les gens l'ont appelé comme ça. Ils l'ont appelé Esav. Par référence au fait qu'il avait l'air tout fait. Vachrechen. Et après cela, Yatsa Achiv est sorti son frère. Et du frère, on ne fait aucune description physique. On dit seulement Viado Chesed Ba'akev Esav. Mais la main du deuxième, là, elle tenait le talon de celui qu'on a appelé Esav. Et Vaikra, ça c'est un singulier, donc on ne dit pas qui c'est, mais. Vaikra Shmo Yaakov. Il a appelé son nom Yaakov. Qui c'est qu'il a appelé comme ça? Dans la Torah, dans le texte, bon, il n'y a rien, hein. Pas marqué. Rashi. Vaikra Shmo Yaakov. Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a, je ne sais pas si c'est un vieux Rashi, qui dit, Akadosh Baruch Hu a dit, Atem kritem le bechorchem shem. Vous avez nommé votre premier-né, Afani ekra libni bechori shem. Moi aussi, je vais nommer mon fils, mon premier-né, Aoudirti vaikra shemo Yaakov. Ça, c'est le Midrash. Donc, Rashi commence par amener le Midrash, d'après ça. Davar acher, autre chose. Aviv karalo Yaakov. Son père l'a appelé Yaakov. Pourquoi? Al-Shem achizata Yaakov. Parce qu'il tenait le talon. Donc, vous voyez, il appelle son fils Talon. Alors, cette histoire de tenir le talon, c'est le Rashi d'avant explique un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ba'akev esav, siman, she'en ze maspik, ligmor malchuto, ad she'ze omed, venotla imenu. Littéralement, celui-là n'aura pas terminé. Il ne sera pas allé jusqu'au bout de sa royauté, que déjà l'autre viendra et prendra la relève. Si on prend les choses telles quelles, ça veut dire la royauté des Saves ne sera pas complètement terminée que déjà celle de Yaakov va la remplacer. Qu'est-ce que c'est qu'une royauté qui termine? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que le royaume n'aura pas périclité et puis que c'est pas comme ça, c'est pas le royaume qui va s'effondrer et ensuite, Yaakov va prendre la relève, mais que Yaakov va prendre la relève d'un royaume qui fonctionne encore. Alors là, on nous donne ensuite Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Yitzhak a 60 ans quand il naît. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ça a duré 20 ans. On peut répartir comme on veut, mais ils ont une certaine logique éventuellement en deux parties, quoi. 2 × 10. Et puis, voilà. Et maintenant, on va donner une petite caractéristique supplémentaire. Comment ça s'est, ils sont développés? Vaï Esav ish yodeat saïd. Esav est devenu quelqu'un qui savait chasser. Ish sade, un homme des champs, un homme de terrain. Yaakov ish tam. Yaakov, c'est un homme entier. Yoshev oalim, qui réside dans les tentes, donc qui étudie, quoi. Et ensuite, le rapport un peu étrange. Vayav Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befiv. Yitzhak, il aime Esav, littéralement, si on lit le texte tel qu'il est, ici, parce que le fruit de la chasse, le produit de la chasse, pardon, était dans sa bouche. C'est-à-dire qu'on a dit les Saves qu'il était un chasseur, donc il produit du gibier, quoi. Et il y a toujours, il y a du gibier dans la bouche d'Yitzhak. Comme si Yitzhak Avinu aimait, il aimait son fils. Pourquoi? Parce qu'il lui amène du gibier. On est fier comme ça qu'on entend un patriarche qui aime son enfant parce qu'il lui donne du gibier. D'accord, c'est vraiment. On en demande encore, hein. Verivka, ils ont réparti les rôles, hein. Verivka ohevet et Yaakov. Elle aime Yaakov. Sans raison. Quand même compliqué, ça. Ce que ça peut bien vouloir dire. Yitzhak, il aime parce qu'il le donne à manger, parce qu'il aime. Et Rivka, c'est une mère qui aime, elle aime son fils. Et donc, elle aime plus un de ses fils que l'autre. Bon, c'est bien équilibré, il y en a. Chacun a un des parents pour lui. Quand on dit qu'elle aime Yaakov, il faut entendre ici un peu qu'elle n'aimait pas tellement Esav. En tout cas, pas de la même manière. On va voir par la suite que les femmes d'Esav, qui avaient compris que Rivka n'aimait pas tellement Esav, elles ont embêté tout le temps, tant qu'elles pouvaient, Rivka. Bon, et maintenant, un événement qui va commencer à faire basculer les choses.
Grave, c'est vous.
Oui.
C'est Odile. Qu'est-ce que c'est qu'un tzadik aime qu'on lui mette à manger dans la bouche? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aime manger? Qu'est-ce que ça nous enseigne?
Ah ben, ça nous enseigne qu'il aime bien le gibier.
Mais normalement, les sadiques, ils ne doivent pas se détacher des repas copieux
Yitzhak, c'était un connaisseur. Il mangeait un tout petit peu de chacun. Et il mangeait de tous. Non, vous avez bien raison. On va essayer d'expliquer un peu plus. C'est sûr que c'est insupportable, cette histoire, d'avoir un patriarche qui est caractérisé. Il aime son fils, pourquoi? Parce qu'il lui donne à manger. Quand même, il ne faut pas exagérer.
C'est le rôle de Rivka.
Oui, bon. Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Minasade Vuayef. Donc, Yaakov, il cuisine un plat et Esav arrive des champs. Il est fatigué. Il est très fatigué. Vayomer Esav el Yaakov. Esav dit à Yaakov, Al itenina mina adoma adomaze, ki ayef anochi. Charge-moi, c'est-à-dire empiffre-moi. J'ai même pas la force de manger moi-même. J'ouvre la bouche et tu m'en enfournes de ce truc rouge là, le rouge là, parce que je suis fatigué. Alken Karashmo Edom. Alors du coup on change son nom, enfin on lui ajoute un nom, il s'appelle Rouge Edom. Parce que il mange du rouge. C'est un peu compliqué, hein. Alors, il est fatigué, le pauvre. Il demande à son frère, donne-moi à manger, je ne peux même pas manger tout seul. tellement je suis fatigué. Je me le mets dans la bouche. Alors Yaakov, là, il commence à partir. Yaakov lui dit, « Micha kayom et bechoratra li, vends-moi ton droit d'aînesse aujourd'hui, comme aujourd'hui. » De façon aussi claire que le jour d'aujourd'hui. Et Esav, il lui dit, « Je vais mourir. Moi, je suis un chasseur. Un jour ou l'autre, ça va me tomber dessus. Je vais mourir. J'en ai rien à battre de la Prora. J'ai rien à faire. Qu'est-ce que je vais gagner avec ça ?» Donc, sur l'entendu, évidemment, tu veux que je te vende ça. Yaakov, Ishabali, Kayom. Yaakov lui dit, jure-moi, comme ce jour. Ishabalo. Il a juré. Vaimkor es bechorato le Yaakov. Et donc, la Torah, elle entérine, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov lui a donné à Esav, du pain, Nezid Adashim, et ce plat, qui était en fait un plat de lentilles, il a mangé, il a bu, il s'est levé, il est parti. Il a méprisé, et ça va mépriser la Bechora. Là aussi, c'est extrêmement redondant le texte. Là, c'est un moment fondamental. Tu vas avoir des conséquences énormes par la suite. Alors, pour répondre à Odile, parce qu'effectivement, Saïd Befiv, Rashi a vu la chose. Regardez Rashi. Ketar Goumo d'abord. C'est-à-dire Befiv Shel Yitzhak. Le gibier était, le produit de la chasse était dans la bouche d'Yitzhak, c'est-à-dire le sens obvié du texte. Ou Midrasho, et maintenant je t'amène à Midrash, c'était Befiv Shel Esav. Shayat Sad Oto Umrameu Bidvarav. En fait, c'est Esav est le chasseur et la proie, c'est Yitzhak, parce que Esav, il lui raconte des histoires. Esav, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Et donc, il veut se faire bien voir de son père. Certains disent que Esav, il sait l'importance d'Yitzhak. Et il veut que Yitzhak prie pour lui, pour qu'Hachem lui donne de la chokhma, de la sagesse. Alors, il se fait bien voir par son père. Comment on se fait bien voir par son père? Il faut le rouler, mais Esav, il roule son père, c'est-à-dire il ne lui dit pas ce qu'il fait dans les champs. Parce que quand Esav est revenu et qu'il était fatigué, pourquoi la Torah nous dit qu'il était fatigué? Et lui-même, il dit « je suis fatigué ». Au point de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir se servir à manger. C'est, comme vous savez probablement, Avraham Avinu, il est mort 5 ans avant son terme. Il aurait dû vivre 5 ans de plus. La raison pour laquelle il meurt, c'est pour ne pas voir Esav mal tourner. Et donc, il meurt. Et on est, la scène qu'on vient de lire, là, elle se passe dans les Shivas de deuil de Yitzhak pour son père, Avraham. Le plat que Yaakov est en train de cuisiner, c'est des lentilles. Vous savez que le minhag, c'est qu'on donne à manger au avélim quelque chose de rond, des œufs ou des lentilles, etc., pour cette idée du cycle de la vie, de la mort, etc. C'est ça que Yitzhak était, que Yaakov était en train de préparer pour son père. Alors, je sais pas pourquoi c'était rouge, je sais pas si les lentilles c'est tellement rouge, mais peut-être qu'il y avait une sauce, je sais pas. Et c'est de ce plat-là que, bon, il n'y a pas de mal à manger aussi de ce plat, hein, mais donc c'est de ça que et ça va manger. Ce que ça faisait, c'était de, comme je vous ai dit, être bien vu par son père. Donc, quand il pose des, comment est-ce qu'on se fait bien apprécier par son père? Ben, c'est en posant des questions de Torah, en fait. Il y a une halakha qui est, une halakha qui est liée à la terre d'Eretz Israël, que quand on cultive, par exemple, supposez que quelqu'un ait produit du blé, alors il fait tout le, il va moissonner, etc. On va séparer le grain, etc. On fait un grand tas de, faire un tas de, avec le grain, les grains de blé, et sur ce tas-là, de ce tas-là, on va prélever 3 prélèvements de la trouma qu'on va donner au Cohen, une dîme, un 10% qu'on va donner au Lévi, et puis un troisième prélèvement qui, selon les années où on se trouve par rapport à l'année sabbatique, à la Shemitah, ce sera ce troisième prélèvement, il sera donné ou bien aux pauvres, ou alors, il faudra aller le manger à Yerushalayim. Et comme on peut pas toujours le manger à Yerushalayim parce que ça va pas se garder d'ici là, il y a une procédure de rachat, c'est-à-dire on transfère la kedusha, c'est-à-dire l'obligation de manger ce blé, par exemple, ou ce raisin, etc., à Yerushalayim, on transfère sur une pièce d'argent. On dit, voilà, j'ai un prélèvement, j'ai 1 kilo de quelque chose, de raisin, disons. Ce kilo de raisin, il vaut 5 euros. Donc, on prend une pièce de 5 euros en argent et on transfère la valeur, donc l'obligation de manger du raisin sur la pièce. Et ensuite, cette pièce-là, quand on ira à Yerushalayim, il faudra la dépenser sur les marchés d'Yerushalayim pour acheter de la nourriture. Pourquoi? Pour faire... L'idée, c'est de rendre vivants les marchés, les rues de Yerushalayim. Alors, il y a des règles qui disent... sur quoi on fait ces prélèvements-là. Alors, on prélève sur le blé, par exemple. Alors, deux des questions que posait Esav, c'est comment est-ce qu'on fait si on veut faire les prélèvements sur la paille? Comment est-ce qu'on fait pour prélever sur le sel? Alors, certains gens lisent que la question des Sav, c'est n'importe quoi, mais c'est pas si sûr que ça. On peut très bien entendre que la Torah, elle nous a imposé des prélèvements en réalité sur 3 choses, Minatora. Sur le blé, sur le céréal, donc, sur l'huile et sur le vin. Et le reste, c'est les Rabbanan qui l'ont étendu ces prélèvements à d'autres choses, à d'autres fruits et légumes, quoi. Alors, on peut très bien dire, vu l'importance de la paille, d'accord, la paille, c'est quelque chose qui va être nécessaire On en a besoin pour en faire des litières. On en a besoin pour toutes sortes de choses pour les, qui ultimement vont servir à la nourriture. Même si on le met pour les animaux, ben, les animaux, ils ont besoin de ça. Et les animaux, ben, ils vont produire du lait ou de la viande, etc. Donc, c'est lié à la nourriture. Bon, ce que Esav propose, il dit, bon, je vais prendre même la dîme là-dessus. Ça paraît un peu ridicule quand on connaît la halakha, mais quand la halakha n'est pas complètement établie, disons, on peut très bien envisager qu'on étende ça aussi à la paille. Et pas, pour ne rien dire du sel, qui joue un rôle tellement important, toute la conservation n'est possible à ce moment-là que avec le sel, que c'est le sel est absolument nécessaire tout le temps, partout. On ne peut pas faire la cuisine sans sel. On ne peut pas manger complètement sans sel du tout, ou on ne peut pas conserver la nourriture. Donc, demander comment on prélève, on fait les prélèvements sur le sel, c'est pas complètement débile, et au contraire. Alors, on dit, voilà, et ça, il voulait se faire mousser devant son père, parce qu'il voulait absolument que son père l'apprécie et qu'il prie pour lui, qu'Hachem lui envoie de la chorma. Pourquoi il n'a pas. Pourquoi il pensait que ce n'était pas nécessaire de prier pour Yaakov, parce que Yaakov, il est en ligne directe avec Hachem par le biais de l'étude. Donc, il aura par le biais de l'étude tout ce dont il a besoin, sans qu'on ait besoin de prier pour lui. Esav, qui n'est pas dans l'étude, il a besoin qu'on prie pour lui. C'est ce que Esav lui-même comprenait. Donc, c'est ça, quand on dit qu'il était en train de piéger, de chasser son père, avec ses paroles, la bouche d'Esav prononce des paroles qui sont en train de rouler, c'est-à-dire de faire d'Yitzhak une proie, en quelque sorte. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous dit que Yitzhak parle. Bon, alors maintenant, avec ça, on ne lit pas du tout, ce n'est pas une question de gibier. Alors, c'est pour ça qu'il y a une façon de le lire pour des pâquerettes, comme si il aimait c'était pour le gibier. Mais on va voir plus loin qu'il y a aussi un sens, quand il voulait une importance, à lire les choses aussi au sens obvié du texte, c'est-à-dire au sens premier du texte, pas seulement sous forme de midrash. Ça viendra tout de suite. Bien, alors, on va sauter l'épisode de la famine, où effectivement, Hachem dit à Yitzhak, je ne veux pas que tu descendes en Égypte, tu ne feras pas comme ton père, tu vas rester là. Et donc, il va rester là. Il est chez les Philistins, il est à Gaza, si vous voulez. Bon, là, il a des problèmes avec Abimelech, il a un problème, il a le même problème que Sarah en Égypte et Sarah chez Abimelech. Là, c'est Rivka chez Abimelech. C'est pas obligatoirement le même. Abimelech, c'est un nom comme Paro. C'est-à-dire, tous les rois des Philistins s'appellent Abimelech. Comme les rois égyptiens s'appellent Paro. Bon, ensuite il s'avère que bon alors Yitzhak il devient très 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 riche, très puissant. Il fait aussi une alliance avec Abimelech, mais il fait pas un brit comme Abraham, il fait une alliance simplement. Et puis, ensuite, on nous dit, au verset 34 du chapitre 26, donc à la fin du chapitre 26, Vaï Esav ben Arbaim Shana, Vaikach Isha, et Yehudit bat Beri Achiti, vet Bosmat bat Ilon Achiti. Esav, il a 40 ans, il se marie. 40 ans, il se marie, ça vous dit quelque chose, non? Il se marie à 40 ans. Esav, il fait comme son père. Son père se marie à 40 ans, il se marie à 40 ans. Il s'addique, fait comme son père. Sauf que lui, il prend des cananéennes, des chitéites, deux femmes, il épouse deux femmes, bon, ça c'est pas. Mais le problème, c'est que c'est des chitéennes, c'est des cananéennes. Et du coup, ça fait morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. Ça affecte terriblement à la fois Yitzhak et Rivka. En fait, Rashi dit qu'on peut entendre ici, dans le Lachon Morat Ruach, en fait, il y a là une Amra, ça veut dire Mamrim etem, Aitem, comme dit le Pasuk. Kol ma'asehen ayu le'achis, ou le'itzavon. Ce sont deux idolâtres. Et tout ce qu'elles font, c'est pour, bon, ils ont traduit rébellion, pour se révolter contre Yitzhak et Yaakov, et Rivka. Voilà. Et maintenant, on passe au deuxième grand sujet. Yitzhak devint vieux. Donc, on a sauté toute une partie de la vie de, on a dit, la famine, la richesse, etc. Et puis, on a avancé. Les jumeaux ont 40 ans, donc. Et ensuite, on saute. Yitzhak devient vieux. Vatichena enav meruot. Voilà, il devient vieux. Et il voit de moins en moins bien jusqu'à devenir quasiment aveugle. Alors il appelle son fils. Alors là, on nous dit, Vaikra et Esav beno hagadol. Il appelle Esav son grand-fils. Et il lui dit, Vayomer Elav beni. Il interpelle mon fils. Vayomer Elav, Ineni. Je suis prêt. Ineni, c'est vraiment la réponse que donne Abraham, que donne Moshe Rabbeinu, etc. C'est je suis prêt à tout. Ineni, ça veut dire je suis complètement disponible. Vayomer, alors, Yitzhak lui dit Inena Zakanti. Voilà, tout à coup, iné, non, ça veut dire. Comme si, brusquement, voilà, j'ai vieilli. Comme si la vieillesse était un peu tombée dessus. Loyadati yom moti. Je sais pas quand je vais mourir. Et maintenant, je veux que tu vas préparer tes instruments. Ton épée, ton arc, et tu vas dans les champs, dans le champ, et tu vas me chasser pour moi du gibier. Et tu vas me les préparer, matamim kasher arafti, tu vas me les préparer comme je les aime. La vie, et tu me l'amèneras à manger, je mangerai, et tout ça pour que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Donc, Yitzhak pense qu'il va bientôt mourir. Ce n'est pas tout à fait le cas, d'ailleurs. Et il veut donner une bracha à son fils. pourquoi pour donner une bracha à son fils, il envoie son fils le ramener du gibier. Là, on est de nouveau ramené à l'épisode gibier. Quoi ça? Je ne comprends pas très bien comment... Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça pour pouvoir le bénir, en fait? Alors, j'ai entendu de Rav Volpe, mon maître, que j'ai entendu l'explication suivante. Le Yetzer Hara, on ne peut pas simplement l'ignorer. Il faut négocier avec le Yetzer Hara. Yitzhak Avinu voulait donner à son fils, il veut lui donner une bracha qu'il faut aller chercher très haut, si vous voulez. C'est de bracha d'Abraham. Et il sait très bien que le Yetzer Hara ne va pas le laisser lui donner cette bracha. Alors il va négocier avec le Yetzer Hara. Et la négociation, c'est apporte-moi quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire au moins mon corps et le Yetzer Hara va être apaisé pour quelque temps, et pendant ce temps-là, de cette satisfaction que me donnera, qu'aura mon corps, le Yetzer Hara, pendant ce temps-là, il va me laisser lâcher les baskets, en quelque sorte. Et à ce moment-là, je pourrais, pendant ce laps de temps, te donner la bracha, faire descendre cette bracha et te donner la bracha que je veux te donner. C'est ça le projet. Et qu'il faille toujours négocier avec les Yetzer Hara, il disait, on voit, c'est la même chose avec Yom Kippour. Pour pouvoir jeûner Yom Kippour, il faut négocier. Et on va, puisqu'on va faire un jour durant lequel on va pas du tout manger, alors il faudra en parallèle un jour dans lequel on va tout le temps manger. C'est pour ça que le 9 Tishri, la veille du Yom Kippour, c'est le seul jour où il y a une mitzvah de manger en permanence. Parce qu'évidemment, le Yitzhak ne fait pas crédit, donc c'est pas laisse-moi jeûner, ensuite le lendemain je te donnerai un jour de... Non, non, fait d'abord on paye. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que manger ce jour-là, c'est la condition sine qua non pour jeûner, donc c'est comme de jeûner à ce moment-là. On s'approche d'Hachem de deux manières. On veut s'approcher en étant comme des malachim, et ici on va manger comme des malachim, c'est au sens où on mange uniquement pour pouvoir jeûner. C'est ça le truc. Là aussi donc. Il s'agit pour pouvoir donner cette bracha, il faut apaiser le Yetzer Hara. On l'apaise en lui donnant ce qu'il aime, mais il faut lui donner du domaine du permis, évidemment. C'est pour ça que Rashi explique que toutes les conditions, tous les mots que dit Yitzhak à Esav, c'est les mots pour lui dire, fais attention, je veux pas que ça soit du gazelle, il faut que ça soit mina efker, il faut l'animal que tu vas chassé, il faut qu'il appartienne à personne, il faut, etc. Tout va être parfaitement permis, évidemment. Ok, donc lui, Yitzhak, va donner cette bracha à Esav. Verivka, Shomat, et d'abord Yitzhak et Esav, Beno. Et Rivka, elle entend. Comment elle fait pour entendre? Certains disent que c'est pas qu'elle a vraiment entendu, c'est qu'on lui a, elle a entendu, mais la Shamaï, on lui a fait savoir cela. Elle a aussi de la neuvoie. Elle a entendu ce que Yitzhak a dit à Esav. Là aussi de nouveau. Rivka Shomat, Bedaber Yitzhak El Esav, Beno. Il y en a plusieurs. Vayelech Esav, Asadé, et Esav part faire ce que son père lui a demandé de faire. Verivka Amra El Yaakov Bena. Et Rivka, elle parle, elle dit à son fils, Ine Shamati et Avicha, Medaber El Esav, Achicha. J'ai entendu ton père parler à Esav, ton frère, en lui disant, etc., amène-moi, etc. Elle lui rapporte ce qu'il a dit. Et elle dit maintenant, et maintenant, béni mon fils, Shema Bekoli, écoute ma voix. La chair Ani Metsava, pardon, Otar. Je t'ordonne, ce que je te dis maintenant, c'est un ordre. Et tu vas aller au troupeau, à l'étable. Tu me prendras deux agneaux, deux cabris, pardon, ce qui dit Izim. Deux cabris, de bons cabris, et je vais les préparer pour ton père, comme il les aime. Elle va leur faire des cabris façon chasseur. Et tu amèneras ça à ton père, et il va manger pour qu'il te bénisse avant sa mort. Voilà. Vous imaginez, Yaakov, c'est le Emet. Yomer Yaakov el Rivka imo, en Esav achi ish sa'ir, anochi ish chalak, en désespoir de cause, il ne veut pas y aller, mais il dit, mais en plus, ça ne marchera jamais. Je suis, mon frère, il est archi poilu et moi je suis complètement glabre. Si mon père me touche, j'apparaîtrai à ses yeux un imposteur et tout ce que je vais récolter, c'est une malédiction, pas une bénédiction. Va tomer lo imo alai qu'il l'a trabéni. Archma Bekoli Veler Kachni. Sa mère lui a dit, je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Seulement, écoute ma voix et va prendre les cabris que je t'ai ordonné de prendre. Bon. Ibn Ezra dit que souvent les femmes, elles, par rapport à leur enfant, elles protègent leur enfant et tout. Elles disent, ouais, je prends sur moi la malédiction. Comme si ça pouvait marcher. Mais en fait, le Gaon de Vilna dit que c'est autre chose. Elle n'a pas dit, je prends sur moi la malédiction. D'après le Gaon de Vilna, elle lui a dit, Alai qui l'attra. Taklala, c'est Aleph Lamed Yud. Alai. Esav, Lavan, Yosef. Toi, tu as trois problèmes dans ta vie. Un problème avec ton frère Esav. Un problème que tu auras avec Lavan, ton beau-père. Et un problème avec ton fils Yosef. Tu n'as pas de problème avec Yitzhak. Donc, tu ne risques rien. Tu n'auras pas de malédiction. Il est allé, il a fait ce que sa mère lui a dit, elle l'a préparé. Et ensuite, Esav avait tué Nimrod. Et Nimrod, il avait récupéré le manteau. Enfin, un manteau d'Adam Harishon. C'était un manteau qui faisait que les animaux venaient chez, ils se rapprochaient. Donc, en fait, ni Nimrod présenté comme un grand chasseur, ni lui aussi comme un grand chasseur. En fait, c'est pas des chasseurs. Les animaux venaient se faire prendre au piège par eux. Il était attiré par le parfum du Gan Eden. Alors Esav, c'est lui qui avait maintenant gagné le manteau, et vous voyez, il ne l'a pas laissé chez ses femmes, il n'est pas fou, il l'a mis chez sa mère. Donc, étant donné que le manteau était chez la mère a pris le manteau, elle l'a revêtu Yaakov de ce manteau-là. Et puis, pour le problème des poils, alors elle lui a mis autour du cou et sur les mains de la peau de chèvre, je sais pas quoi, un truc poilu. Donc il est complètement déguisé, quoi. Celui qui va entrer chez son père, c'est un espèce, il est déguisé en Esav. Bon, il est arrivé chez son père. Et Yomer Avi, il a appelé son père. Son père lui a dit, voilà, je suis là. Mais qui es-tu, mon fils? Alors, Vayomer Yaakov et Aviv, Anochi Esav Bechorecha. Littéralement, il a dit, je suis Esav, ton premier-né. Alors, Rashi dit, il faut lire Anochi, virgule, donc je suis qui je suis, Esav Bechorecha. C'est Esav, ton premier-né. Asiti Kacher Dibarta Elai. Alors là, maintenant, ça marche plus vraiment, mais j'ai fait ce que comme tu m'as parlé. Kumna, lève-toi, s'il te plaît. Shva, assieds-toi. Et mange de ma chasse afin que ton âme me bénisse. Donc, il a fait son numéro. Vayomer Yitzhak el beno, mazem yarta limtso beni. Comment se fait-il que tu aies trouvé si rapidement? Alors, il répond, là, c'est le piège. Il répond, ben, c'est Hachem ton Dieu qui l'avait préparé devant moi. Donc, j'ai pas eu de difficulté. Alors Yitzhak dit à Yaakov, il lui dit, Geshana ve'amushra beni, approche-toi mon fils que je te touche. Ataze beni Esav imlo. Est-ce que tu es mon fils Esav ou non? Vaigash Yaakov el Yitzhak aviv, vaimushehu vayomer akol kol Yaakov vayadaim de Esav. Il l'a tâté et il a dit, la voix c'est la voix de Yaakov. Mais les mains sont les mains d'Esav. Velo Ikiro, il ne l'a pas reconnu, parce que les mains étaient les mains d'Esav. Son frère était poilu, et il l'a béni. Et encore une fois, il lui dit, « Vayomer, Ataze béni Esav. » Il va pour le bénir, ça veut dire. Et il lui répète, « Tu es mon fils Esav. » Vayomer, Ani. Oui, enfin, il n'a pas dit oui, il a dit je suis. Vayomer, il lui a dit, approche-toi, et donc, serre-moi, je vais manger de la chasse de mon fils pour que mon âme te bénisse. Et donc, Yaakov lui a approché les choses, il l'a mangé, il lui a aussi donné du vin, il a bu. Alors, Yitzhak, après, il lui a dit, encore une fois, « Gushana Kushkali, béni, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Il s'est approché, il l'a embrassé. « Vayirach et Reach Begadav » et il a respiré l'odeur de ses vêtements. « Vayivarcheu » il l'a béni. Et il a dit d'abord, « Regarde, Reach beni, Reach sade asher berachu Hashem. L'odeur de mon fils, c'est l'odeur d'un champ qui vient d'être béni par Hashem. Et voilà, après, il va lui donner la bracha. Rashi dit, sur le verset 27, il a senti l'odeur des vêtements. Rashi dit, alors en reach ra yoter
Nishetef Aizim. Il n'y a pas d'odeur plus dégoûtante que l'odeur des chèvres. Comment est-ce qu'il a trouvé ça très bon? Ela melamed shenichnasimo reach shel Gan Eden. Il faut dire qu'en même temps, c'était le manteau qui est lié au Gan Eden. C'est le réar du Gan Eden qui est venu. Et c'est cette odeur-là qu'il entend, qu'il a ressenti et qu'il a senti et qui, effectivement, était une très bonne odeur. Le reste, c'était, si c'était le reste, ça sent très mauvais, en fait. Je voudrais juste dire une chose. On peut se demander ici, on comprend rien parce que Yaakov lui-même, Yitzhak dit, la voix c'est la voix d'Yaakov et les mains c'est les mains de Esav. Pourquoi il a décidé sur les mains, d'après les mains plutôt que d'après la voix? Quand j'ai vu que, en fait, il faut comprendre comme ça. Yitzhak Avinu, il savait qui était Esav. Il savait qu'Esav avait les défauts qu'il avait. Mais Yitzhak pensait qu'il arriverait, par amour, il arriverait à mettre les deux frères ensemble. Cette idée de faire de quelqu'un qui étudie et de quelqu'un qui fait du business et qui l'entretient et qui partage avec lui le mérite de l'étude, c'est quelque chose qui va se faire par la suite. Ça va se faire parmi les enfants de Yaakov, ça va se faire entre Issachar et Zvulun. Issachar qui étudie et Zvulun qui est le marchand. Et ils font un deal ensemble et Issachar donne à Zvulun la moitié du mérite de l'étude. Et Zvulun lui donne la moitié de ce qu'il gagne en faisant son business. Yitzhak voulait faire ça entre Esav et Yaakov. Ça s'entend très bien. En vérité, ce sont deux jumeaux. Ils ont en quelque sorte divergé, puis maintenant ils pensent qu'ils vont converger. Ils voudraient les faire reconverger. Rivka, elle sait que Esav ne marchera jamais dans cette affaire. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas faire. Yaakov, il savait que c'était difficile, mais il pensait qu'avec l'amour, il pourrait le faire. Et donc, la bracha qu'il va donner à Esav, c'est une bracha purement matérielle. Justement parce qu'il veut qu'il réussisse dans le monde matériel, parce qu'il faut qu'il fasse la parnassa pour les deux, pour lui et pour Yitzhak. Moi, j'y arrive pas. Pour lui et pour Yaakov. C'est ça qu'il veut faire. Mais, en fait, je pense que Yitzhak a compris. Il a compris qu'il avait devant lui Yaakov, parce qu'il y a les Midrashim qui disent que Yaakov, il a essayé de copier la voix d'Esav. Quand il dit, pourquoi il dit « Akol kol Yaakov » Il dit, bien que cette voix-là, elle résonne comme si elle était la voix de... C'est la voix d'Yaakov qui essaye de copier Esav. Et les mains, c'est les mains d'Esav, mais c'est des mains qui sont revêtues, c'est truqué. Mais il décide, ok. Il comprend que visiblement son projet va pas marcher. Mina Shamaim, ça fonctionne pas. Alors il lui donne la bracha. Et quand Esav arrive, alors bon, il va pas dire à Esav, Mina Shamaim n'en a pas voulu, etc. Et tout. Il va laisser les choses. Ton frère, il a bechokhma, ça veut dire il a par la ruse. La ruse, c'est la métisse des Grecs, c'est-à-dire c'est le contraire de la. C'est la même pièce, mais c'est l'autre face de la pièce, chokhma. Il y a le chokhma et la ruse, c'est la même chose, la même pièce. Il est venu Bechokhmeta, ça veut dire avec la sagesse, et il a fait ce qu'il fallait, c'est pas ce qu'il lui dit directement, et il a pris la bracha. C'est lui qui a la bracha. Alors bon, il est savant, il a pleuré, tempêté, crié, etc. Ça va lui coûter cher, tout ça, par la suite. Mais il va obtenir une certaine bracha de son père quand même. Et il dit tout de suite, mon père, il va bientôt mourir, je tuerai Yaakov. C'est-à-dire, je vais annuler la bracha en tuant Yaakov. C'est ce qu'il a essayé de faire en envoyant Eliphaz tuer Yaakov. Et la bracha, elle est arrivée chez Yaakov. Akadosh Baruch Hu voulait que la bracha arrive chez Yaakov, mais pas de façon directe, de façon tordue en quelque sorte. Il fallait que ça se passe comme ça. Pour l'instant, on ne va pas dire comment, parce que je ne sais pas exactement pourquoi ça doit se faire obligatoirement de cette manière-là. Mais ça fait partie, c'est une des raisons pour lesquelles les choses se passent de cette manière-là. Pour que les brachot arrivent, mais indirectement, chez Yaakov. Et c'est pour ça que Yitzhak dit tout de suite, mais qui est-ce qui est venu et qui est-ce qui a pris la bracha? Ah, qu'il soit béni. Tout de suite, il dit, OK. Normalement, Yitzhak, s'il avait compris qu'il s'était fait rouler, etc., il aurait dû dire, mais j'annule ma bracha et elle a été obtenue par la ruse, et c'est un menteur, etc. Il dit rien de tout ça. Il dit qu'il soit béni. Il comprend. Et après, quand il va envoyer Yaakov chez Lavan, il va donner la bracha. La bracha d'Abraham, il va le répéter, une bracha. Il a compris que le successeur, ce sera vraiment Yaakov et pas Esaü.